les préservatifs de la pensée ou comment la philosophie nous préserve de nos préjugés. Une chronique philosophique présentée par Christophe Galli. Bonjour à tous. Nous reprenons nos préservatifs de la pensée avec aujourd'hui un philosophe contemporain qui mérite toute notre considération. J'ai nommé Jules.
Je fais des détours. Ce soir j'oublie tout. Et quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte. On partira tous un jour. Alors je m'attrape de vos discours. Derrière le bonheur, moi je cours.
Non, je plaisante. Pendant 15 ans, Jules fut au contraire le client parfait pour les moqueries et ainsi démontré mon bon goût musical. Enfant des quartiers nord de Marseille, parlant un français pauvre et rempli de fautes, il chantait en autotune, c'est-à-dire qu'un ordinateur modifiait sa voix pour éviter d'entendre les fausses notes, sur une musique rap loin de mes valeurs auditives. Mes élèves, pendant ces 15 années, ont ri ouvertement de lui, tout en l'écoutant secrètement. Tout allait bien. J'avais de bons points de repère. Un lycéen faisait le signe de Jules avec ses deux mains et ponctuait ses phrases avec le fameux « wesh ». Je pouvais alors sans regret le classer dans la catégorie des « mauvais élèves ». Les choses étaient claires. Jules allait disparaître dans les limbes de l'industrie musicale, remplacé par un autre crétin commercial dans le cœur de nos adolescents. Oui, mais voilà, cela ne s'est pas passé exactement comme ça. Jules, gamin loin des réseaux parisiens, a produit seul sa musique. Et au fil des albums, il a construit un son reconnaissable entre tous. Peut-être pas le génie musical du siècle, mais on ne saurait dire si ses chansons vieilliront bien ou pas. Et surtout, il a réussi un exploit. Réunir 100 000 personnes au Stade de France. Maintenant, les premiers fans sont de jeunes adultes et ils assument de plus en plus leurs goûts musicaux. Spectacle de masse pour une société de masse en opposition avec les élites qui regardent avec mépris ce qui leur apparaît comme une forme de décadence. Elles qui estiment avoir le monopole du bon goût, alors qu'ils sont souvent les pires philistins. Philistins, qu'est-ce que c'est ? Hannah Arendt utilisa ce concept dans un célèbre article, La crise de la culture, en 1961. 1961, la date n'est peut-être pas hasardeuse. Le rock s'était développé pleinement avec des chanteurs comme Elvis, et une nouvelle cible de la société de consommation s'affirmait de plus en plus, la jeunesse. Jeunesse qui allait devenir un véritable moteur de l'industrie de la musique et du cinéma. Du divertissement et du loisir, en d'autres mots. La philosophe, Hannah Arendt, distingue la culture de la création d'œuvres d'art. Les œuvres d'art ont un caractère durable. Parfois vieilles de plusieurs siècles, elles échappent à la consommation. Nous les rencontrons lorsque nous allons dans un musée, dans un cinéma ou une salle de spectacle. Et ce, même si notre vie n'en dépend pas. Aujourd'hui, nous vivons dans une société de masse. Et seul l'artiste peut encore se construire contre la société. Et force est de reconnaître que c'est ce que fit Jules lors de ses premières années musicales. Personne ne le soutenait, tout le monde le méprisait. Il a réussi à forger un style qui lui est propre, en transgressant toutes les règles, y compris celles de la langue académique. Il s'est construit en ennemi de ce qu'on appelle généralement la culture.
C'est une cigale jet-setteuse qui se radine chez une fourmi trimeuse et lui balance « Hé, chiotte biloute, t'aurais pas des Pringles ?» La fourmi voit bien que la cigale est en chien, mais elle s'en tripote les funicules. La cigale lui explique qu'elle a passé son été à son jaillet sur Get Lucky. Alors la fourmi lui répond « Ah ouais, les Daft Punk, génial, j'adore l'électro !» Et elle lui tase les tétons.
La culture, voilà un élément qui est moins tangible. Tout le monde sait ce que c'est, mais il est très difficile de lui trouver une définition. Il s'agit, si nous prenons la définition scientifique, de manifestations, de rites et de connaissances qui consistent à appartenir à un groupe social déterminé. Mais la culture, c'est aussi fréquenter une salle de concert, un musée ou une bibliothèque, qui, de l'ordre, deviennent des actions censées nous rendre meilleurs. Meilleurs en quoi, me direz-vous ? Là est tout l'enjeu. En théorie, c'est pour affiner notre sensibilité à la beauté pure dans un esprit libre et ouvert. Mais en réalité, la culture sert trop souvent à faire germer un amour-propre, un orgueil. Hannah Arendt l'avait bien compris. La culture sert à se valoriser socialement, à être un philistin, c'est-à-dire un privilégié qui va utiliser ses connaissances pour se valoriser socialement comme un faire-valoir.
Je suis snob, je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ma demande des mois d'urbain, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde.
Jazz, rap ou variété française, la musique est donc un moyen de faire la différence avec les autres, ou du moins de marquer notre appartenance à une classe sociale. Dis-moi ce que tu écoutes et je te dirai qui tu es. À cet égard, ce qu'on appelle la musique populaire ne peut pas intéresser les élites, puisque justement elles construisent l'estime qu'elles ont pour elles-mêmes contre tout ce qui est populaire. Les élites doivent écouter ce qui les met sur un piédestal, tout en méprisant ce qui fait danser la populace. Par opposition, l'individu lambda ne s'intéresse pas particulièrement à la culture, car il n'a pas besoin d'être valorisé en manifestant ce que les élites appellent « être cultivé ». Avoir de la culture générale lui semble un luxe inutile, réservé aux couches supérieures de la société, mais il n'en a pas besoin pour maintenir ses processus vitaux. Oh, certes, nous pourrions arguer que la culture ne correspond pas à un besoin, mais à un désir. Il n'en a que faire. Ce qu'il veut, ce sont des loisirs et du divertissement, de l'entertainment, pour reprendre l'anglicisme, c'est-à-dire des articles offerts par l'industrie des loisirs, ingurgités comme n'importe quel autre objet de consommation, entre deux périodes de travail, de tâches ménagères, d'obligations familiales.
Ça n'a aucun intérêt, franchement. Ah, vous connaissez.
Juanita Banana, Juanita Banana. Oh, si je connais. Oh, ah non. C'est ça.
L'industrie du loisir va donc produire des objets de consommation qu'elle devra toujours renouveler. Car, par définition, la consommation est une forme de destruction. Le loisir doit être nouveau pour être attrayant. Bien entendu, cela peut donner d'excellentes surprises. Les Beatles furent traités comme un boys band avant la lettre, véritable filon pour des hommes d'affaires sans scrupules. Mais les pions grandirent et devinrent des musiciens extraordinaires, porte-parole de la contre-culture des années 60. Mais Hannah Arendt précise, la culture de masse apparaît quand la société de masse se saisit des objets culturels et son danger est que le processus vital de la société consommera littéralement les objets culturels, les engloutira et les détruira. En France, la musique populaire ne connut pas vraiment la révolution pop anglo-saxonne, ou du moins se contenta de la suivre en l'imitant plus ou moins bien. Les chanteurs comme Johnny Hallyday participèrent à cette société de consommation où il s'agissait de produire pour vendre. Cela rendit les gens heureux, et des masses se regroupèrent dans des stades pour applaudir les spectacles de leurs idoles. Nous ne sommes plus dans la culture élitiste, mais dans la culture de masse, industrie du divertissement qui permet de rendre la vie plus douce. Peut-être faut-il associer Joule à ce mouvement que nous appellerons le divertissement industriel ? Je suis bien conscient de toute la connotation péjorative qu'il y a dans cette phrase. Et je l'assume, car comme tout à chacun, je juge de la qualité d'une musique à l'aune de ma propre culture, de mon goût, de ma position sociale. Certes, ce jugement esthétique n'est pas objectif. Il est juste constitué d'un degré de plaisir. Lorsque je juge de la valeur d'une musique, à la fois je reconnais la subjectivité de mon point de vue, mais dans le même temps, cela me permet de discuter avec les autres, de communiquer avec eux, car je suis satisfait lorsque je rencontre quelqu'un qui partage avec moi le même sentiment de plaisir ou de déplaisir à l'égard d'un art. Nous formons alors une communauté esthétique qui dresse des barrières entre moi et ceux qui ne partagent pas ces goûts. Cela me rassure, car j'ai une prétention à la vérité lorsque j'énonce un jugement esthétique. Vérité lorsqu'il ne s'agit que d'un point de vue subjectif, mais c'est totalement contradictoire. Celui qui a le mieux compris cela, c'est Kant, qui passa toute sa vie dans une ville prussienne, loin du Vatican, de Florence ou de Paris, où les chefs-d'œuvre qu'il était en droit d'admirer à son époque étaient conservés. Mais il expliquait que, pour qu'un jugement soit valable, il réclame de la part des autres une forme d'accord, d'acquiescement. Le bon goût est un concept qui se partage à plusieurs, et plus cette communauté sera forte et influente dans la société, plus il représentera le bon sens. Ce bon sens est certes assez arbitraire, car il ne s'appuie pas sur une réflexion objective, mais il a la force du groupe qui juge, c'est-à-dire qu'il intègre, dans la sphère de la culture valorisante, ce chanteur ou l'exclut au nom du bon goût.
Salaud pauvre. Et vous, là, affreux. Je vous ignore, je vous chasse de ma mémoire. Je vous balaie.
affreux.
Jules est-il donc un artiste ou juste le produit d'une consommation de masse? Restera-t-il un des piliers contestataires contre le bon goût des élites, à l'origine de scandales qui épouvantera la bonne société? Ou va-t-il être intronisé membre éminent du panthéon musical? Aya Nakamura, en chantant à l'ouverture des JO, fut une autre artiste à la croisée des chemins. Sauf qu'elle eut le droit à la reconnaissance des autorités officielles dans un acte politique fort contre le conservatisme de l'extrême droite. Cela montre une des dernières caractéristiques de la thèse d'Hannah Arendt. Cette question est beaucoup plus politique qu'on veut bien le croire.
Fin des temps Kali Yuga, l'être humain dans l'entonnoir, aspiré dans le grand trou noir, des petits enfants font le grand trottoir, un grand foutoir pour un petit foulard. Les états disent qu'est-ce que tu fous là, barrez-vous de là, les bambous là, droit dans son petit costard, une petite toile, le bab tout slash, dans les squads les négros se cachent, par la fenêtre s'échappe le nouage, et de rouge le sol se tache, des viols d'enfants, des marées noires, les Janjaweed, roi du noir, les usines pètent, les suppures, comme des vésicules de pu, tout le monde regarde, personne dit rien, c'est comme pour les films de cul, des marées blanches dans les bouches et la graisse va dans les ventes, les bénévoles se dépensent pour payer nos bonnes consciences, puis la bonne concordance des temps, nos enfants deviennent mutants, la mort de l'art, la mort du vent se prépare, les océans, la fin du rêve, on nous téléguide, les ventres pleins se nourrit de vide, les cœurs sont petits comme des raisins secs, une parfaite colonie d'insectes, les cœurs serrés dans des corsets, les âmes écartées au forceps, on pleure devant les infos, hors de monde comme des nymphos, en moi se joue une lutte entre un agneau et un faux, voir rouge au pays des bleus, donc ma colère est mauve, cheville à ma condition, à jamais un salaud de pauvre.
Cette chronique et quelques-unes supplémentaires seront éditées dans un livre prévu pour 2026, un peu de retard. Un premier recueil édité en 2023 aux éditions BOD est toujours disponible. Mais en attendant, n'oubliez pas que si RPH Chute peut accueillir ces chroniques, c'est parce que c'est une radio associative, non commerciale, qui vit notamment grâce à des subventions publiques et aux nombreux bénévoles. La menace de voir diminuer ses subventions à l'expression radiophonique peut revenir à tout moment, en cette époque d'instabilité politique où la surenchère devient la règle. Je remercie RPH Sud et Radio Pays d'Hérault pour rendre possible ces petits moments de philosophie, et plus particulièrement Solène, à la prise de son et à l'aide au montage. Et je laisse le dernier mot à Jacques Higelin.